plus c'est que tout le monde, presque la majorité, a fini par accepter, reconnaître les résultats confirmés par la Cour constitutionnelle. Il reste maintenant au nouveau président de pouvoir prendre ses fonctions et essayer de mettre en pratique une politique qui devra au moins fédérer toutes les forces politiques et sociales, de manière à ce que la relance de la reconstruction de la République démocratique du Congo, sur tous les plans, puisse devenir une chose réelle.
Je repasse un instant la parole à Léa Lisa Vesterov, qui est à mes côtés et qui suit en direct, puisqu'elle est retransmise cette cérémonie. Où en est-on ?
Eh bien, on a pu voir Joseph Kabila et Félix Tshisekedi assis tous les deux côte à côte dans deux grands fauteuils. L'image est lourde de symboles. Joseph Kabila qui est d'abord allé saluer l'armée, l'ensemble de l'armée à son arrivée. La fanfare de la République a ensuite joué l'hymne national de la République démocratique du Congo avant que le président sortant n'aille saluer les chefs d'État présents. On attend désormais la suite de la cérémonie d'investiture, à savoir la remise par le président sortant Joseph Kabila de l'emblème national, des armoiries et d'un exemplaire de la Constitution au nouveau président Félix Tshisekedi, qui devra ensuite prononcer ce discours d'investiture très attendu.
Nous retrouverons dans quelques instants ensuite Kamanda Wakamanda Muzembe sur place. Cette cérémonie, je vous le rappelle, intervient alors que les résultats sont toujours contestés. La coalition au pouvoir, le FCC, la coalition qui a soutenu Félix Tshisekedi, qui est investi donc aujourd'hui, sont notamment accusés par la coalition Lamouka d'avoir conclu un accord pour voler la victoire de Martin Fayoulou, qui estime avoir remporté cette élection. Hier, des révélations de nos confrères de l'AFP risquent d'alimenter la polémique. Ils disent avoir consulté le texte d'un accord de coalition politique et de partage du pouvoir entre Félix Tshisekedi, le camp de Félix Tshisekedi et le camp du président Kabila. Florence Maurice, bonjour. Rebonjour. Que sait-on de la marge de manœuvre du nouveau président ?
De cet accord mentionné par l'AFP dépendra sans doute cette marge de manœuvre de Félix Tshisekedi. Tous les contours de ce possible accord de coalition ne sont pas connus, mais selon nos confrères, il prévoirait que les ministres régaliens, affaires étrangères, défense et intérieures, devraient revenir à la famille du nouveau président élu, ainsi qu'une rotation tous les 5 ans pour le poste de premier ministre. C'est important car bien sûr la constitution congolaise octroie au président des pouvoirs importants, celui par exemple de relever de ses fonctions son premier ministre en cas de blocage, mais on peut se demander si cela sera suffisant pour réformer par exemple l'armée, comme Félix Tshisekedi s'y est engagé, car pour les nominations au sein des forces de sécurité, il lui faudra l'aval de son gouvernement et aussi affronter les puissants généraux que Joseph Kabila a pris soin de nommer à des postes clés l'an passé, un pari risqué, même risque de blocage sur le volet économique de son programme. En 18 ans, l'entourage de Joseph Kabila s'est bâti un véritable empire économique selon plusieurs enquêtes, privant l'État congolais d'une part non négligeable de ses ressources minières notamment. Reprendre la main sur ce secteur s'annonce difficile là aussi. Rien n'est statique en RDC, le pouvoir attire le pouvoir, tempère-t-on du côté de Félix Tshisekedi, où l'on croit en la capacité du nouveau président à faire bouger les lignes petit à petit.
RFI, il est 13h43 à Kinshasa, on retrouve nos invités en ligne. Maître Kapiamba, que prévoit la Constitution ? Quels sont les attributs du président ?
Alors, le président de la République est le symbole de l'unité nationale. Il représente la nation. C'est lui qui convoque et préside tous les conseils des ministres, sauf en cas d'empêchement, il peut déléguer ses pouvoirs au premier ministre. Il est aussi prévu que dans le cadre de la collaboration entre le président de la République et le gouvernement, que le gouvernement doit définir, élaborer le programme de la gestion politique, économique et sociale de la nation en concertation avec le président de la République. Il a aussi le pouvoir de nomination des ambassadeurs, les hauts magistrats, ainsi que les hauts responsables de l'administration publique. Et donc, il a énormément de pouvoirs. Et il y a quand même un élément important à mentionner, c'est que la Constitution de 2006 que nous avons actuellement a essayé d'équilibrer les choses pour éviter aussi des conflits en mettant des passerelles de collaboration entre les différentes institutions de la République. Donc il devra y avoir de temps en temps effectivement des points sur lesquels le président de la République ainsi que le gouvernement, comme il va résulter, le premier ministre va résulter de la famille qui a gagné les élections législatives, certains points sur lesquels ils devront au moins trouver des consensus. Bob afin de faire avancer les choses de la nation.
Maître Kapiamba, merci. Bob Kabamba, Sonia Rollet a une question pour vous.
Alors, est-ce que concrètement, Bob Kabamba, toutes ses attributions ou toutes ses fonctions qu'on a vu exercer, on a vu Joseph Kabila par exemple exercer ce pouvoir de nomination de manière importante, est-ce que Félix Tshisekedi, dans une situation de cohabitation, va pouvoir avoir tous ses pouvoirs prévus par la Constitution de manière sans limite?
Oui, il faut bien se rendre compte. En fait, la Constitution, elle prévoit justement qu'il puisse y avoir atténuation des pouvoirs entre les deux chefs de l'exécutif, c'est-à-dire d'une part le gouvernement, d'autre part la présidente de la République. Le président ne peut pas nommer tout seul tous les généraux, ambassadeurs, etc., sans passer par le Conseil des ministres. Donc avant toute nomination devant être faite, que ce soit l'armée, que ce soit les ambassadeurs, que ce soit les hauts cadres de l'État, tout ça doit passer d'abord en Conseil des ministres. Ce n'est qu'après le Conseil des ministres que le président peut finalement nommer ces différentes personnalités.
Mais est-ce que ça veut dire que pour vous, ça va être possible, cette négociation au quotidien? Est-ce que vous pensez qu'ils vont devoir rentrer par exemple en coalition pour arriver et se mettre d'accord sur tout un programme, pour arriver à pas avoir des frictions quasi quotidiennes finalement sur le fonctionnement de l'État?
D'un point de vue, ça va être vraiment problématique. Ça va vraiment être problématique du fait que les différents appareils, c'est-à-dire aussi bien l'administration, aussi bien l'armée, aussi bien que toutes les structures économiques du pays, ont déjà des nominations qui ont déjà été faites préalablement par le président Kabila. Alors pour pouvoir dégommer toute cette machine, toute cette hiérarchie qui a été mise en place, il faut qu'il y ait véritablement un changement. Or ce changement ne peut venir qu'avec la volonté d'un gouvernement pour arriver justement à ce changement-là. Alors je vois mal s'ils vont dans une dynamique de coalition, que les intérêts représentés par la famille de Kabila soient mis en mal par le groupe représenté par Félix Tshisekedi. Et donc là, nous allons sérieusement avoir des frictions par rapport à l'optique et surtout par rapport à la direction que va prendre la politique de la nation, puisqu'il ne faut pas oublier que c'est le gouvernement, en fait, c'est le gouvernement qui conduit la politique de la nation, c'est le gouvernement qui dirige. En fait, le président n'est là que pour avaliser, en fait, les décisions qui seront prises par le gouvernement. Le président n'a que très peu de possibilités de pouvoir agir tout seul, notamment lorsque vous avez évoqué la question donc du Premier ministre. Et de plus, même sur la question du Premier ministre, il aura toujours besoin du Parlement. Alors là, ressort encore une autre difficulté que l'on peut déjà commencer à voir, c'est-à-dire le fait que la majorité qui sera au Parlement risque de ne pas nécessairement être dans le même sens que que peut pas le vouloir le nouveau président de la République.
Sonia, maître Georges Kapiamba, peut-être une question par rapport à ce que vous disiez sur la Constitution. Vous êtes défenseur des droits de l'homme régulièrement, vous avez dénoncé les violations de la Constitution. Qu'est-ce qui vous fait croire qu'aujourd'hui, le président sortant, Joseph Kabila, va la respecter quand vous-même vous passiez votre temps à critiquer son action en disant qu'il violait régulièrement la Constitution?
Bon, je pense que rapidement, je voudrais relativiser ce que le prof Kabamba était en train de dire, que le président de la République n'est là que pour avaliser. Je crois que c'est pas totalement exact. J'ai rappelé ici que le président de la République, c'est lui qui convoque et dirige le Conseil des ministres. Cela veut dire que toute question devant faire l'objet de traitement au Conseil des ministres doit être traité au départ, et l'ordre du jour est censé être aussi agréé par le président de la République, et que lors même de la tenue des conseils, des réunions des conseils des ministres, c'est lui qui les dirige, il sait comment il peut orienter. Et s'agissant de nominations, par exemple, des officiers militaires ou les ambassadeurs ou les plus hauts cadres dans l'administration publique, je pense que ce sont des dossiers qui vont être traités au niveau des ministères sectoriels, qui vont faire l'objet de débats à ce niveau-là avant d'être avalisés au niveau du Conseil des ministres. Donc, il devra y avoir, et ça se fait généralement, des concertations dès le départ.
Mais juste en un mot, maître Kapiamba, est-ce que vous pensez qu'ils peuvent respecter la loi?
Ça ne va pas constituer en soi un blocage. Alors, s'agissant du respect de la loi, je ne sais pas. Si on devra encore continuer à en demander au président Joseph Kabila, qui va passer le pouvoir incessamment. C'est lui qui a la, qui va avoir la responsabilité de respecter et de faire respecter la Constitution. C'est le nouveau président qui va entrer à la personne de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous, notre travail message, de lobbying devra être tourné vers lui. Et nous espérons qu'il va respecter.
Message reçu, ce sera à Félix Tshisekedi, donc, de faire respecter la Constitution. Bob Kabamba, Maître Georges Kapiamba, restez avec nous, la RDC, on en reparle tout de suite.
Édition spéciale sur RFI.
Marie-Pierre Olfan. Édition spéciale donc Afrique Midi, aujourd'hui consacrée à cette investiture de Félix Tshisekedi, aujourd'hui en République démocratique du Congo, à Kinshasa. Félix Tshisekedi, le leader de l'UDPS qui succède donc à Joseph Kabila. Jean-Jacques Louarn, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en studio avec nous. Deux hommes, Félix Tshisekedi et Joseph Kabila, qui ont en commun un lourd héritage.
Oui, c'est le moins qu'on puisse dire, effectivement. Tous deux portent un héritage politique lourd. Ils sont, dit avec ironie, un confrère congolais, les fils de leur père, deux pères, Étienne Tshisekedi et Laurent Désiré Kabila, qui sont déjà dans l'histoire avec un grand H du Congo. L'un était le sphinx de l'imité, l'autre le mzé, le sage. Joseph Kabila n'a jamais eu de surnom. Quant à Félix Tshisekedi, ses partisans l'ont appelé Fachi lors de la campagne électorale, mais c'est une simple contraction de Félix-Antoine Tshisekedi. C'est comme si Félix et Joseph n'avaient pas encore gagné leur lettre de noblesse, conclut le journaliste congolais interrogé.
Deux pères charismatiques, donc, un peut-on dire, mais qui ont longtemps éclipsé leur progéniture.
Oui, Félix et Joseph ont vécu dans l'ombre de leur père. Voilà au moins un point commun. Félix Tshisekedi, à 55 ans, prend le pouvoir comme une revanche et a su prendre d'une main habile l'UDPS, cette véritable machine électorale. On le dit à l'écoute des autres, plus fin diplomate, conciliant et courtois que son père, connu comme un homme fier et têtu. Félix serait donc peut-être une sorte d'anti-sphinx. Mais sous ses aspects jovial et rond, le nouveau président affirme tous ses proches, eh bien, est un homme volontaire et déterminé. Joseph Kabila, lui, on le sait, est un taiseux et a entretenu le goût du secret, insaisissable parfois pour son entourage, un homme dangereux pour ses adversaires, un homme qui a eu le goût du pouvoir solitaire. Les deux hommes vont-ils savoir habiter sous le même toit, quelle que soit la formule, une cohabitation, une coalition? Dans tous les cas de figure, d'aucuns parlent d'un tandem, d'un pouvoir à deux têtes, un bicéphalisme de fait à la congolaise, sur fond d'intérêts communs bien compris pour l'instant. Et on a entendu, il y a quelques instants, Bob Kabamba dire que tout ça sera problématique en évoquant de possibles frictions à venir.
Jean-Jacques Louarn, je vous propose d'aller tout de suite à Kinshasa retrouver Kamanda Wakamanda Muzembe, notre correspondant qui assiste en ce moment même à cette cérémonie, donc qui a débuté il y a plusieurs minutes. Kamanda, où en est cette cérémonie? Qu'est-ce qui se passe sous vos yeux en ce moment?
Oui, la cérémonie vient à peine de commencer. Comme vous pouvez l'imaginer, on a présenté les invités. Le président Kabila est arrivé peu après Félix Tshisekedi. Une foule immense a pris d'assaut le palais de la Nation. Les combattants de l'UDPS ont envahi les jardins. D'autres sont juchés sur des arbres. Les services de l'ordre sont débordés. Les invités et les officiels, eux, occupent déjà leur place dans les différentes tribunes érigées pour la circonstance. Mais la Cour constitutionnelle ne s'est pas encore installée à la place qui lui est réservée. C'est elle qui va officier la cérémonie de prestation de serment de Félix Antoine Tshisekedi.
Et à l'instant, Kamanda, une prière avait lieu, elle vient de se terminer, c'est cela?
La cérémonie n'a pas encore eu lieu, c'est...
Non, je parlais d'une prière.
Oui, une petite prière, et maintenant, c'est la Cour constitutionnelle qui va s'installer afin de recevoir le serment du président élu. Avant donc les discours de circonstance, les discours d'investiture président Félix Tshisekedi.
Cette cérémonie Kamanda Wakamanda Muzembe se passe dans un lieu mythique. Pourquoi?
Oui, ça se passe dans un lieu mythique, le Palais de la Nation, l'endroit même où avait été prononcé le discours de l'indépendance de la République démocratique du Congo en 1960. Donc c'était plutôt le 30 juin 1960, et ce discours avait été lu par le roi Baudouin Ier, le roi des Belges. Et c'est donc ici où Étienne Tshisekedi va, ou plutôt Félix Tshisekedi, va lire, va prononcer son discours d'investiture. Ce sera ainsi le deuxième président de la République démocratique du Congo à prononcer un discours d'investiture dans ce palais de la nation.
Kamanda Wakamanda Muzembe, merci. Vous étiez en direct de Kinshasa. À l'instant, vous nous en parliez de ces juges qui n'étaient pas encore installés, ces juges de la Cour constitutionnelle. Ils sont en train d'arriver et de se mettre en place. Je me tourne maintenant vers nos invités pour parler des attentes de ce jour historique et de cette élection, cette investiture de Félix Tshisekedi qui succède donc à Joseph Kabila. Les attentes sont énormes chez les Congolais, mais aussi chez vous, représentants pour certains de la société civile. Je pense notamment à Maître Georges Kapiamba. Quelle est la priorité pour vous d'abord, Maître Kapiamba? Est-ce que c'est de rassembler, de réconcilier, de tendre la main au camp du perdant, Martin Fayulu?
Tout à fait. Pour nous, c'est la première priorité. Nous espérons entendre dans les discours d'investiture du nouveau président des messages forts qui devront rassurer les uns et les autres que cette réconciliation tant voulue et attendue depuis le 31 décembre 2016 à l'occasion de l'adoption de l'accord de la Saint-Sylvestre, que cette réconciliation va finalement se mettre en mouvement. Et parce que s'il n'y a pas de réconciliation, il va être difficile pour nous ainsi que pour le nouveau gouvernement de réaliser un quelconque programme de reconstruction socio-économique.
La réconciliation, on l'a compris, priorité pour vous, Maître Kapiamba. Bob Kabamba, Sonia Rollet a une question.
Est-ce que pour vous, aujourd'hui, cet état de fait privilégie la réconciliation? Est-ce que c'est possible? On a vu qu'il y avait des tensions ethniques entre communautés qui émergeaient dues justement à ce conflit post-électoral.
Ben, je pense que ça va être difficile. Puis, il ne faut pas non plus oublier qu'il y a une partie quand même de la population qui n'a pas voté, notamment la grande communauté Nandé dans le Nord Kivu, pour qui c'est comme une trahison que de ne pas avoir pu exprimer leur suffrage lors de ces élections. Et par ailleurs aussi, je sais aussi qu'il va y avoir quand même des tensions qui vont pouvoir naître liées au fait que Félix Tshisekedi va avoir du mal, je pense, à pouvoir vraiment asseoir sa légitimité du fait que l'Église catholique est restée beaucoup trop en retrait et pour pouvoir, entre guillemets, accepter et valider les résultats qui ont été publiés par la CENI et la mise en place, en fait, de ce nouveau régime que nous allons peut-être devoir assister dans les prochaines semaines. Et donc ça va plutôt arriver à mettre en exergue que la réconciliation va être difficile et les premiers pas vont être importants de Félix Tshisekedi, mais aussi, il y a aussi la question de la région qui est importante, c'est-à-dire rassurer les pays de la région que ben, finalement le Congo va pouvoir se stabiliser et pouvoir offrir la paix non seulement au Congo mais aussi aux pays voisins.
Merci à nos invités, Bob Kabamba, Maître Georges Kapiamba et aussi à nos correspondants et à nos journalistes ici à Paris, à Steven Elslick qui assurait la technique de cette édition spéciale d'Afrique Midi, et à tous ceux qui m'ont aidé à la préparer. Toute l'actualité congolaise, c'est aussi sur www.rfi.fr. Restez à l'écoute.
Priorité santé.
Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur le thème de demain.
La 66e journée mondiale des lépreux, cette maladie de la misère qui est loin d'être éradiquée malgré un traitement efficace.
Appelez-nous au 33 1 84 22 75 75 ou écrivez-nous à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité santé. Caroline Paré.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.